Je vais, pour commencer, examiner les défauts du gouvernement anglais. Je commence par les chartes et par les corporations. C'est pervertir les termes que de dire qu'une charte donne des droits. Elle a un effet contraire qui est celui d'ôter des droits. Les droits sont inhérents dans tous les habitants, mais les chartes, en annulant ces droits dans la majorité, les laissent exclusivement entre les mains d'un petit nombre d'hommes. Si les chartes étaient faites de manière à exprimer en termes formels que tout habitant qui n'est pas membre d'une corporation n'exercera pas le droit de voter, de pareilles chartes seraient visiblement des chartes, non pas de droit, mais d'exclusion. Elles produisent les mêmes effets de la manière dont elles sont conçues, et les seules personnes qu'elles affectent sont celles qu'elles excluent. Ceux dont on garantit les droits en ne les en privant pas n'exercent d'autres droits que ceux auxquels ils peuvent prétendre comme membres de la communauté, sans aucune charte. C'est pourquoi toutes les chartes n'ont qu'un effet négatif indirect. Elles n'accordent pas des droits à A, mais elles font une différence en faveur de A, en privant B de ses droits, et conséquemment sont des instruments d'injustice. Mais les chartes et les corporations ont un mauvais effet d'une plus grande étendue que ce qui a rapport aux élections. Elles sont les sources de querelles interminables dans les endroits où elles existent, et elles diminuent les droits communs de la nation. Un Anglais naturel, sous la verge de ses chartes et de ses corporations, ne saurait être appelé Anglais dans toute l'étendue du terme. Il n'est pas un citoyen libre de la nation, comme un Français l'est en France, un Américain en Amérique. Ses droits sont circonscrits à la ville et, dans quelques circonstances, à la paroisse où il est né. Et toutes les autres parties de son pays natal sont pour lui une terre étrangère. Pour y obtenir le droit de résidence, il faut qu'il s'y fasse naturaliser par argent ou on lui défend la place. Cette espèce de féodalité est conservée pour agrandir les corporations sur les ruines des villes et l'effet en est visible. La plupart des villes avec des corporations sont dans un état de décadence et il n'y a que quelques circonstances dans leur situation qui empêchent leur ruine totale, telle qu'une rivière navigable ou un pays fertile. Comme la population est une des principales sources de l'opulence, car sans la population, les terres mêmes n'ont aucune valeur, tout ce qui tend à l'empêcher doit diminuer la valeur des propriétés. Comme les corporations non seulement tendent à cela, mais le font même directement, elles ne peuvent qu'être nuisibles. Si, au lieu de la liberté générale accordée en France et en Amérique à tous les individus de s'établir où ils voudront, on voulait suivre une autre politique, il serait plus conséquent de donner des encouragements aux nouveaux venus que de s'opposer à leur établissement en exigeant d'eux des sommes d'argent. Les personnes les plus immédiatement intéressées à l'abolition des corporations sont les habitants des villes où elles existent. L'exemple de Manchester, de Birmingham et de Sheffield montre, par un contraste, le tort que ces institutions gothiques font aux propriétés et au commerce. On peut trouver quelques exemples du contraire, tels que celui de Londres, dont les avantages naturels et commerciaux, à cause de sa situation sur la Tamise, peuvent lutter contre les maux politiques d'une corporation. Mais dans tous les autres cas, les maux produits par les corporations sont trop visibles pour qu'on puisse les nier ou même en douter. Quoique la nation entière ne soit pas si directement affectée par le dépérissement des propriétés dans les villes à corporations que les habitants de ces mêmes villes, elle en partage néanmoins les conséquences. En diminuant la valeur des propriétés, la quantité du commerce de la nation est aussi diminuée. Tout homme achète selon ses facultés, et comme toutes les parties d'une nation commercent les unes avec les autres, ce qui affecte l'une des parties doit nécessairement se communiquer au tout. Comme une des chambres du Parlement d'Angleterre est principalement formée des élections de ses corporations, et comme il n'est pas naturel de voir sortir un clair ruisseau d'une source bourbeuse, ses vices ne sont que la continuation des vices de son origine. Un homme d'honneur et qui a de bons principes politiques ne saurait se soumettre à la bassesse et aux vils artifices par lesquels ces élections sont faites. Pour réussir dans son élection, il faut qu'il soit dénué des qualités qui constituent un juste législateur. Et étant ainsi dressé à la corruption par la manière d'entrer en Parlement, on ne doit pas s'attendre que le représentant sera plus intègre que le candidat. M. Burke, en parlant de la représentation anglaise, a donné un défi aussi hardi que dans les temps de la chevalerie. Notre représentation, dit-il, a été trouvée répondre parfaitement à toutes les fins pour lesquelles on peut désirer ou établir une représentation du peuple. Je défie, ajoute-t-il, les ennemis de notre Constitution de prouver le contraire. Cette déclaration de la part d'un homme qui s'est constamment opposé pendant le cours de sa vie politique, un an ou deux exceptés, à toutes les mesures du Parlement, est fort extraordinaire, et en le comparant avec lui-même, elle n'admet point d'autre alternative que celle-ci, où il a agi contre son opinion, comme membre du Parlement, où il a fait une déclaration contraire à son jugement, comme auteur. Mais le vice ne gît pas seulement dans la représentation, c'est pourquoi je passe à l'aristocratie. Ce que l'on appelle la Chambre des Pairs est constitué sur un principe à peu près semblable à celui contre lequel il y a une loi dans d'autres circonstances. C'est une combinaison de personnes ayant les mêmes intérêts. On ne saurait assigner aucune raison pourquoi une chambre de législateurs est plutôt composée d'hommes dont les occupations sont principalement de louer des terres que de ceux qui en sont les fermiers, ou de brasseurs, ou de boulangers, ou de toute autre classe d'hommes. M. Burke appelle cette chambre la base et le pilier de sûreté de l'intérêt territorial. Examinons cette idée. Quel pilier de l'intérêt territorial exige-t-il de plus que les autres propriétés de l'État, ou quel droit a-t-il à une représentation distincte et séparée de la généralité des autres propriétés de la nation? Le seul usage qu'il puisse faire de ce privilège, et qu'il en a toujours fait, c'est de se soustraire aux impôts et d'en rejeter le fardeau sur les articles de consommation qui portent le moins sur lui. Il est évident, par l'histoire des taxes de l'Angleterre, que telles ont été chez elle les conséquences qu'a produites cette chambre privilégiée et que les gouvernements institués sur les corporations n'en produiront jamais d'autres. Quoique les taxes ayant augmenté sur tous les articles de consommation, l'impôt territorial qui touche plus particulièrement ce pilier a diminué. En 1788, l'impôt territorial rapportait 1 950 000 livres sterling, 46 800 000 livres tournois, qui est 1 000 000 de moins qu'il ne produisait il y a près de 100 ans, quoique les rentes soient presque doublées depuis cette époque. Avant l'avènement de la maison de Hanovre, les impôts étaient presque également partagés entre les propriétés territoriales et les articles de consommation, les terres en supportant plutôt une plus grande proportion. Mais depuis cette époque, on a mis près de 13 millions annuellement, 312 millions de livres tournois, de nouveaux impôts sur la consommation. La conséquence a été une augmentation continuelle du nombre et de la misère des pauvres et des taxes pour les pauvres. Cependant, ici comme ailleurs, le fardeau ne tombe pas sur l'aristocratie en proportion du reste de la communauté. Leurs maisons, soit à la ville ou à la campagne, ne sont pas placées auprès de celles des pauvres. Ils vivent loin de la détresse, sans être assujettis aux dépenses exigées pour la soulager. C'est dans les villes de manufacture et dans les villages où ces taxes pèsent le plus, dans plusieurs desquels c'est une classe de pauvres qui soutient l'autre. Plusieurs des impôts les plus onéreux, les plus productifs, sont tellement mis que ce pilier qui se tient toujours sur la défensive en est exempt. L'impôt sur la bière à vendre n'affecte pas l'aristocratie qui fait sa propre bière sans être assujettie à ce droit. Il ne tombe que sur ceux qui n'ont pas les facultés ou la commodité de brasser et qui achètent en détail. Mais que pensera-t-on de la justice de l'impôt lorsqu'on saura que cette taxe seule, dont l'aristocratie se trouve, par circonstances exemptes, est presque égale à la totalité de l'impôt territorial, montant en l'année 1788, et elle n'a pas moindre actuellement, à 1 666 152 livres sterling. Et en comptant les droits sur la drèche et sur le houblon, elle est plus considérable. Qu'un seul article, consommé partiellement et principalement par les ouvriers, soit sujet à un impôt égal à la totalité de l'impôt territorial, est peut-être une chose sans exemple dans l'histoire des revenus. Voilà une des conséquences qui résulte de ce qu'une chambre de la législature est composée sur un principe de combinaison d'intérêts communs. Car, quelles que soient les opinions politiques de ses membres, en fait de parti, ils se réunissent toujours pour cela. Qu'une combinaison agisse pour augmenter le prix des denrées ou le salaire des ouvriers, ou qu'elle agisse pour s'exempter des taxes et les faire retomber sur une autre classe de la communauté, le principe et les effets sont les mêmes. et si l'une est illégale, il sera difficile de prouver que l'autre doive exister. Il est puéril de dire que les impôts sont d'abord proposés dans la Chambre des communes, car comme la Chambre des pairs a toujours une négative, elle est toujours en état de se défendre, et il serait ridicule de supposer qu'on n'eût connu pas d'avance son acquiescement à la mesure proposée. Outre cela, l'aristocratie a obtenu une si grande influence par le trafic des bourgs, et il y a un si grand nombre de ses parents et de ses amis dans les deux parties de la Chambre des communes, que cela lui donne, outre une négative absolue dans une chambre, une grande prépondérance dans l'autre, dans toutes les affaires de la nation. Il est difficile de découvrir ce que l'on veut dire par l'intérêt territorial si cela ne signifie pas une combinaison de propriétaires territoriaux aristocrates qui opposent leur intérêt particulier à celui du fermier et de toutes les autres branches de commerce et de manufacture. À tous autres égards, c'est le seul intérêt qui n'a pas besoin de protection partielle. Il jouit de la protection générale du monde. Tout individu, riche ou pauvre, est intéressé aux productions de la terre. Les hommes, les femmes et les enfants, de tout âge et de toutes conditions, voleront au secours du fermier plutôt que de souffrir qu'une moisson soit perdue. Et ils n'en agiront pas ainsi par rapport aux autres propriétés. C'est la seule propriété pour laquelle on offre au ciel les prières communes, et la seule qui ne saurait jamais manquer, faute de moyens. C'est l'intérêt, non pas de la politique, mais de l'existence de l'homme. Quand il cessera d'exister, l'homme cessera aussi. Il n'y a pas d'autre intérêt dans une nation qui réunisse les mêmes appuis. Le commerce, les manufactures, les arts, les sciences et tous les autres, en comparaison de celui-ci, ne sont soutenus que partiellement. Leur prospérité ou leur décadence n'a pas une influence aussi universelle. Quand les vallées sourient et chantent, ce n'est pas le fermier seul, mais toute la création qui se réjouit. C'est une prospérité qui exclut l'envie, et on ne saurait en dire autant d'aucune autre chose. Pourquoi donc M. Burke parle-t-il de sa chambre des pairs comme du pilier de l'intérêt territorial? Si ce pilier était englouti dans la terre, la même propriété territoriale n'en existerait pas moins, et on continuerait également de labourer, de semer et de recueillir. L'aristocratie n'est pas composée des fermiers qui cultivent la terre et ses productions, mais de ceux qui les consomment. Et quand on compare les aristocrates à la partie laborieuse de l'espèce humaine, ils en sont les bourdons et forment un sérail de mâles qui ne travaillent ni au miel ni à la ruche, mais qui n'existent que pour jouir dans l'indolence. M. Burke, dans son premier essai, a appelé l'aristocratie le chapiteau corinthien de la société civilisée. Afin de compléter la figure, il vient d'y ajouter le pilier ou la colonne. Mais il y manque encore la base. Et quand il plaira à une nation d'agir comme Samson, non pas aveuglément, mais hardiment, adieu le temple de Dagon, les pairs et les philistins. Si l'on compose une chambre de la législature, d'hommes de la même classe, pour protéger un intérêt distinct, tous les autres intérêts devraient avoir le même avantage. L'inégalité, ainsi que le fardeau des impôts, vient de ce qu'on admet dans un cas et point dans tous. S'il y avait eu une chambre de fermiers, l'acte de la chasse n'existerait pas. Ou une chambre de négociants et de manufacturiers, les taxes ne seraient pas si inégalement réparties ou si excessives. Le pouvoir d'imposer n'a fait un tel ravage que parce qu'il était entre les mains de ceux qui avaient intérêt à s'y soustraire. Les hommes qui n'ont que de petits revenus souffrent plus de ce que les taxes sont mises sur les articles de consommation qu'ils ne gagnent par la diminution d'impôts sur leurs terres, pour les raisons suivantes. Premièrement, ils consomment plus des articles imposés en proportion de leurs revenus que ceux qui ont de grands biens. Secondement, ils résident principalement dans les villes. Leurs propriétés consistent en maisons et l'augmentation de la taxe des pauvres, occasionnée par les impôts sur la consommation, est beaucoup plus considérable que l'impôt territorial. À Birmingham, on ne paye pas moins de 7 schelins par livre pour la taxe des pauvres. L'aristocratie, comme nous l'avons déjà observé, en est en grande partie exempte. Ceci ne fait qu'une partie des maux occasionnés par le pitoyable système d'une chambre de pairs. Comme corporation, elle peut toujours s'exempter d'une partie des taxes, et comme chambre héréditaire, n'étant responsable à personne, elle ressemble à un bourg pourri dont il faut mendier le suffrage et le crédit. Il y a très peu de ses membres qui ne participent pas de manière ou d'autre au trésor public, ou qui n'en sont pas les dispensateurs. L'un devient porte-chandelier, ou gentilhomme servant, ou gentilhomme de la chambre, ou écuyer tranchant, ou prend quelque autre place nominale aussi ridicule, à laquelle on attache un salaire payé du trésor public, afin que la corruption ne soit pas si visible. De pareilles situations sont dérogatoires au caractère de l'homme, et là où on peut s'y soumettre, l'honneur ne saurait résider. À tout ceci, il faut ajouter les nombreux dépendants, la longue liste des cadets et des parents éloignés pour lesquels il faut faire des provisions aux dépens du public. En un mot, si l'on estimait ce que coûte l'aristocratie à une nation, on trouverait que pour son entretien, il ne faut guère moins de taxes que pour celui des pauvres. Le duc de Richemont, seul, il y en a plusieurs autres dans le même cas, prend pour lui un revenu suffisant pour entretenir 2000 pauvres ou vieillards. Est-il donc bien surprenant qu'avec un pareil système de gouvernement, les taxes soient parvenues au point où elles sont? En exposant ces faits, je parle ouvertement et sans aucun motif d'intérêt. Mes paroles sont dictées par l'humanité et non par la passion. Il n'est pas surprenant que la bassesse et la fourberie me paraissent dégoûtantes, à moi, qui ai non seulement refusé des offres, que je ne croyais pas convenables, mais même des récompenses que j'aurais pu accepter sans rougir. L'indépendance fait mon bonheur, et je vois les choses telles qu'elles sont, sans avoir égard au rang et aux personnes. Mon pays est le monde, et ma religion est de faire le bien. M. Burke, en parlant du droit aristocratique d'aînesse, dit « C'est le droit de notre héritage territorial qui, sans doute, tend, ajoute-t-il, tente heureusement à conserver un caractère d'importance et de prépondérance. » M. Burke peut appeler cette loi comme il lui plaira, mais l'humanité et la réflexion impartiale la dénonceront comme une loi brutale et injuste. Si nous n'y étions pas accoutumés par une pratique journalière, et si nous en entendions parler comme d'une loi qui existe dans quelques parties du monde fort éloignées, nous conclurions que les législateurs de ces pays-là ne sont pas encore parvenus à l'état de civilisation. Quant à ce qu'elles conservent un caractère d'importance et de prépondérance, cela me paraît tout à fait l'inverse. C'est une tache sur le caractère, une espèce de pillage des biens de famille. Cela peut donner de la prépondérance auprès des fermiers qui dépendent de vous, mais on n'en acquiert aucune dans la balance du caractère national et encore moins dans celle du caractère universel. Par exemple, mes parents n'étaient pas en état de me donner un seul chelin au-delà de ce qu'ils firent pour mon éducation, et ils se sont même gênés pour m'éduquer. Cependant, je possède beaucoup plus de ce qu'on appelle « importance » dans le monde qu'aucun de ceux qui sont dans le catalogue d'aristocrates de M. Burke. Ayant jeté un coup d'œil sur quelques-uns des défauts des deux chambres du Parlement, je passe à l'examen de ce que l'on appelle la couronne, et je serai fort court. La couronne est une fonction nominale d'1 million sterling par an. Celui qui la porte n'a rien autre chose à faire qu'à recevoir l'argent. Qu'il soit sage ou fou, dans son bon sens ou insensé, né dans le pays ou étranger, cela n'y fait rien. Chaque ministère agit selon les mêmes principes que M. Burke écrit. Savoir que le peuple doit être aveuglé et tenu dans une ignorance superstitieuse par quelque duperie. Et ce que l'on appelle la couronne répond parfaitement à ses vues. C'est pourquoi elle remplit toutes les fins qu'on doit en attendre. C'est beaucoup plus qu'on en pourrait dire des deux autres branches. Le danger auquel cette fonction est sujette n'est pas ce qui peut arriver aux fonctionnaires, mais ce qui peut arriver à la nation, que celle-ci ne revienne à son bon sens. On avait coutume d'appeler la couronne le pouvoir exécutif, et cette coutume est restée, quoique la raison ait cessé. On appelait le pouvoir exécutif parce que la personne qui le possédait avait autrefois coutume de siéger comme juge pour administrer ou pour exécuter les lois. Les tribunaux faisaient alors partie de la cour. C'est pourquoi le pouvoir qu'on appelle aujourd'hui judiciaire était alors appelé exécutif. Conséquemment, l'une ou l'autre de ces dénominations est redondante et l'une des fonctions inutile. Quand nous parlons actuellement de la couronne, cela ne veut rien dire, cela ne signifie ni un juge ni un général. Outre cela, ce sont les lois qui gouvernent et non pas l'homme. On a conservé les anciens noms pour donner une apparence d'importance à de vaines formes et le seul effet qu'elles aient, c'est d'augmenter les dépenses. Avant de passer aux moyens de rendre les gouvernements plus propres au bonheur général du genre humain qu'ils ne le sont maintenant, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'œil sur les progrès des impôts en Angleterre. C'est une idée générale que lorsque les taxes sont une fois mises, elles ne sont jamais ôtées. Quelque vraie que puisse être cette assertion depuis quelque temps, il n'en a pas toujours été ainsi. Où donc les peuples de l'ancien temps surveillaient le gouvernement de plus près que ceux d'aujourd'hui, où le gouvernement était administré avec plus d'économie. Il s'est écoulé plus de 700 ans depuis la conquête des Normands et l'établissement de ce qu'on appelle la couronne. En divisant cet espace de temps en 7 périodes de 100 ans chacune, le montant des impôts annuels dans chaque période sera comme suit. Montant des impôts levés annuellement par Guillaume le Conquérant, commençant en l'année 1066, 400 000 livres. Montant des impôts 100 ans après la conquête, en 1166, 200 000. Montant des impôts 200 ans après la conquête, en 1266, 150 000. Montant des impôts 300 ans après la conquête, en 1366, 130 000. Montant des impôts 400 ans après la conquête, en 1466, 100 000. Ces États et ceux qui suivent sont pris de l'histoire du revenu de Sir John Sinclair, par laquelle il paraît que les impôts allèrent en diminuant pendant 400 ans, à l'expiration desquels ils étaient réduits de 3/4, savoir de 400 000 livres à 100 000. Le peuple d'Angleterre actuel a une idée historique et par tradition de la bravoure de ses ancêtres. Mais quel qu'ait été leur vice ou leur vertu, c'était sûrement un peuple qui ne voulait pas qu'on lui en imposât et qui tenait le gouvernement en respect par rapport aux taxes, sinon par rapport aux principes. Quoiqu'il ne fût pas capable d'expulser l'usurpation monarchique, il la restreignit à une économie républicaine de taxes. Voyons à présent les 3 autres 100 ans. Montant annuel des impôts 500 ans après la conquête, en 1566, 500 000 livres. Montant des impôts 600 ans après la conquête, en 1666, 1 800 000. Montant annuel des impôts au moment actuel, en 1791, 17 millions. La différence entre les 4 premiers siècles et les 3 derniers est tellement étonnante qu'on peut bien croire sans crainte de se tromper que le caractère des Anglais ait changé. Il aurait été impossible d'entraîner les Anglais d'autrefois dans les impôts excessifs qui existent aujourd'hui. Et quand on considère que la paye de l'armée et de la marine et de tous les employés est la même aujourd'hui qu'elle était il y a plus de 100 ans, lorsque les taxes ne montaient pas à 1/10 de ce qu'elles sont actuellement, il paraît impossible de rendre compte de cette augmentation énorme de dépenses sans l'attribuer à l'extravagance, à la corruption et à l'intrigue. Le système destructeur des intrigues et la rage des guerres et des possessions étrangères se sont introduits avec la révolution de 1688 et plus encore depuis la succession de Hanovre. Ces systèmes sont tellement mystérieux qu'il est impossible de pouvoir faire rendre les comptes. Une simple ligne contient des millions. Il est impossible de calculer jusqu'à quel point les taxes auraient été portées si la Révolution française n'avait pas contribué à rompre ce système et à mettre fin au prétexte. Cette Révolution, considérée comme elle doit l'être, comme un heureux moyen de diminuer les impôts immenses des deux pays, est aussi importante à l'Angleterre qu'à la France. Et si on en tire tous les avantages dont elle est susceptible et auxquels elle conduit, mérite autant d'être célébrée dans un pays que dans l'autre.